France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso.
Aventure, science-fiction, spiritualité, polar, c'est le cocktail détonnant de tous ses romans. Il est connu et reconnu pour sa trilogie Les Fourmis, traduit en plus de 35 langues, des millions d'exemplaires vendus. Il ferait pâlir n'importe quel rockstar de jalousie. C'est un des auteurs les plus lus à travers le monde. Il sort un nouveau roman aux éditions Albin Michel qui s'appelle La Voix de la Terre. Bonjour Bernard Werber. Et au menu aujourd'hui de la télé et de l'humour avec Patrice Gascoigne. Bonjour Patrice.
Bonjour. Quand elle était petite, elle imitait les gens qu'elle voyait à la télé pour faire rire la famille. Aujourd'hui, Claude Attaquebault, elle passe dans le poste. Elle a pris sa place dans la grande famille de l'humour. Et elle voit même une chaîne TMC lui consacrer un prime time ce soir sur TMC.
Il y en a un qui a pris sa place dans la grande famille de l'humour de France Bleu Midi Ensemble. C'est Thierry Garcia, Allô les stars, accompagné aujourd'hui de François Bayrou.
Oui, effectivement, car quand il s'agit de parler à Bernard Werber, qui comme moi vient du sud-ouest, je suis chaud patate. En plus, il est sacrément futé, Bernard Werber. Pour être sûr de ne pas gagner de prix, il sort ses livres un mois après tout le monde. Oh là là. Eh bien moi, je vais faire pareil, parfaitement. Pour les élections de 2017, je vais me présenter en 2018. Comme ça, je serai pas élu. Mais le soir des résultats, pour une fois au moins, c'est pas moi qui passerai pour l'andouille de service. Malin le François, hein ? J'en ai dans la tête moi aussi.
Merci Thierry Garcia des 13h. Une de vos copines, Sandrine Alexis, qui est une voix féminine des Guignols.
Tout à fait.
Comme vous, qui êtes aussi une des voix des Guignols, elle nous rejoindra pour parler d'un DVD, l'année des Guignols. France Bleu Midi, ensemble, c'est parti et c'est jusqu'à 1h30. Je suis âgée de 4 milliards 500 millions d'années, et je me sens encore jeune. J'ai accompli de nombreuses prouesses durant mon existence. J'ai fait apparaître la vie sur ma surface, puis je l'ai diversifiée. J'ai fait surgir parmi ce foisonnement végétal et animal l'intelligence. Je suis, dirait Julien Lepers.
Je suis
Bernard Werber.
Pas du tout, mais vous êtes nuls, vous écoutez rien. Mais ils sont épouvantables, mais c'est pas possible. Mais vous êtes virés tous les deux.
J'ai moins de 4,5 milliards d'années.
Ouais, je suis la Terre.
Bah oui, la Terre, bien sûr.
Ce sont les premières lignes du roman de Bernard Werber qui s'appelle La Voix de la Terre. Dans ce livre, donc, la Terre prend la parole. Pourquoi avoir décidé de lui laisser la parole à la Terre finalement? On ne l'écoute pas assez?
Oui. c'est exactement. Simple, hein. Non, puis ce qui m'amuse depuis le début dans mon travail littéraire, c'est de changer de point de vue. Alors avec les fourmis, c'était le point de vue des fourmis. Dans Nous les dieux, c'était le point de vue des dieux. Et puis dans La Voix de la Terre, c'est le point de vue de la Terre. Tout simplement parce que je crois que pour comprendre ce qui nous arrive, il faut placer la caméra dans des endroits exotiques et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait vu de d'autres endroits.
Voilà,
et
pas puis, regarder seulement du point de vue humain, en fait.
Voilà, quitter notre nombril. De... Ouais, qui... Et puis, on marche dessus. Donc, ça me semble une entité intéressante. Et je suis persuadé qu'il y a une forme d'intelligence dans cette planète, et voire de conscience. Donc, j'ai fait le pas de l'intelligence à la conscience. Elle vit.
Conscience qui serait conscience de la Terre ou du cosmos, ou de l'ensemble de l'univers?
Conscience de la Terre, c'est-à-dire qu'elle-même se pose des questions, comme nous tous, sur... Qui sommes-nous? En fait, ça serait presque une psychanalyse. La Voix de la Terre, c'est presque une psychanalyse de notre planète. Savoir, au fait, qu'est-ce qu'elle pense?
Qu'est-ce qu'elle pense, la Terre? Alors, vous êtes un peu le nouveau Galilée. Hein. Lui, en 1633, il disait, et pourtant, la Terre tourne. Vous vous dites, et pourtant, en 2014, la Terre parle.
Exactement. Déjà, la Terre pense. Parce que dans le roman, j'essaie surtout de montrer son point de vue, à quoi elle songe. Que serait une pensée qui traîne depuis 4,5 milliards d'années? Nous avons 100 ans au maximum de période de réflexion. Donc à peine on commence à réfléchir, déjà on s'approche de la fin de la réflexion. Mais une Terre qui réfléchit pendant 4,5 milliards d'années, c'est intéressant parce qu'elle a vu toutes sortes d'espèces défiler sur sa surface. Et puis elle a, tel que je l'ai imaginé dans le livre, elle a un souci, c'est l'envie de se reproduire, comme toutes les formes de vie. Donc en fait, elle a envie de niquer, si je puis dire. Et c'est un point de vue écologiste étrange. C'est-à-dire, depuis chaque fois qu'on parle de la Terre, on est dans la morale et dans la tristesse. Oh là là, on l'abîme, oh là là, on est des méchants et tout. Faut être plus gentil avec la Terre. Merci. Puis la Terre, elle s'en fout un peu de nous. Ce qu'elle réfléchit, c'est... Comment niquer?
Voilà, si elle nique avec Saturne, il y aura déjà l'anneau, c'est bien.
Pour se marier.
Mais elle en a pas marre de nous?
Ce qui est amusant, Bernard Werber, c'est que vous vous positionnez, vous ne dites pas du point de vue humain, et pourtant vous donnez à la Terre exactement les mêmes envies.
Parce qu'elle nous écoute. Elle écoute vous. France Bleu. Elle, du coup, elle a appris à parler comme nous. Elle écoute votre émission.
Et puis, Daniela.
D'où la grande
bleue. Exactement. L'idée, c'est qu'une forme de vie qui réfléchit et qui perçoit, pourquoi ne percevrait pas nos ondes radio, nos émissions de télévision? Pourquoi ne s'amuserait-elle pas apprendre notre langue? Donc, en effet, elle pense comme nous, enfin, elle s'exprime comme nous, si ce n'est que sa pensée est beaucoup plus profonde parce que beaucoup plus ancienne. Imaginons un être qui soit aussi ancien, au bout d'un moment, son premier problème, c'est s'ennuyer. C'est-à-dire quelqu'un, imaginez si vous vivez déjà, 200 ans, il faut arriver à trouver des activités tous les jours. Elle, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, elle voit défiler les espèces, de temps en temps, ils meurent, ils apparaissent. En fait, la perception qu'elle a...
Alors, celui qui se pose ces drôles de questions pour vous s'appelle Bernard Werber. La perception qu'elle a,
c'est celle d'un chien avec ses puces. C'est-à-dire un chien, par moment, quand il y a trop de puces, ça gratte.
Elle s'agite. Donc,
c'est nous les puces.
Elle s'agite.
Ouais,
c'est nous.
Voilà, c'est tremblement de terre, c'est juste la patte qui vient, qui secoue. Alors, nous, c'est catastrophe. Ah là là, nos villes s'effondrent, nous mourons. Et tout. Mais pour elle, rien à foutre.
Voilà,
quoi.
D'où le fait qu'il y ait de plus en plus de catastrophes naturelles. Patrice Gascoin ?
Non, mais on se gratte souvent, en fait. Je vois, il y a de plus en plus de puces sur Terre. Donc, qu'allons-nous devenir, en fait ?
On est de plus en plus nombreux. Donc, elle prend de plus en plus conscience de notre présence. Quand nous étions que 3 millions en Afrique, elle ne devait même pas avoir pris conscience qu'il y a quelque chose d'intéressant ou de nouveau qui était apparu. Maintenant, bon, on a réellement une action sur sa surface, mais je ne la vois pas comme une méchante ou en train de nous juger. Je ne crois pas une Terre qui nous juge, je crois une Terre qui se demande comment nous utiliser par rapport à ses propres désirs.
Donc elle se rebelle contre ses habitants qui se divisent en deux catégories, les grands et les micro-humains. Les micro-humains, ils sont 10 fois plus petits que les humains, ils mesurent 17 cm. Ils sont plus féminins aussi, plus solidaires. C'est votre vision à vous de l'évolution de l'espèce ?
Déjà, quand on regarde dans le passé, il y a eu 5 grandes extinctions d'espèces. Et grande extinction, ça veut dire qu'il y a tout d'un coup un astéroïde qui arrive, qui détruit tout. Et il y a 10% de la vie en phore et en flamme qui survit. Et après, ces 5 grandes extinctions, chaque fois, il y a le choix de la vie a été plus petit, plus féminin, plus solidaire. C'est pour ça que nous, en fait, nous sommes le fruit de toute cette histoire. C'est pour ça que les dinosaures sont devenus des lézards, les mammouths sont devenus des éléphants, les grandes libellules de 2 mètres d'envergure sont devenues des petites libellules. Tout va vers le plus petit, plus féminin et plus solidaire. Et je crois que c'est une bonne chose, mais il faut l'accepter.
Bernard Werber, les micro-humains donc, que vous décrivez ne sont pas tendres avec les grands, les humains. Pour eux, ils sont paresseux, corrompus, menteurs, hypocrites, alcooliques, drogués, suicidaires, désespérés, ricaneurs, j'ai pas fini l'énumération, sadiques, cyniques, pervers, égoïstes, violents. C'est comme ça que vous voyez les hommes ?
Non, à un moment, il y a un personnage qui dit « Finalement, si on veut être comme vous, on va être comme ça ». Mais en tout cas, je crois surtout que l'humanité a un truc intéressant, c'est qu'elle est diversifiée. Tous les petits qualificatifs que vous avez cités, c'est des qualificatifs qui montrent qu'on est différent. Ouais. Et la pire chose qui puisse nous arriver, ça soit comme pour les grains de maïs ou le blé ou l'élevage, c'est qu'on soit tous pareils, en train de penser les mêmes choses et de
mais
vivre de la même manière.
Mais qu'est-ce que vous en savez ? Le grain de maïs, il se pense peut-être différent de son voisin grain de maïs ?
Il y a beaucoup de manipulations génétiques pour qu'on ait tous le meilleur
grain de maïs.
Le même grain de maïs.
Il y a une potentielle troisième guerre mondiale dans ce roman.
Oui.
Alors, vous la craignez, Bernard Werber ?
Je veux dire, en tant que romancier, je me suis tombé devant une problématique assez originale. C'est que par rapport à mon intrigue, j'avais besoin qu'il y ait une guerre mondiale qui fasse beaucoup de morts. Alors, je ne sais pas, la plupart des gens se disent comment faire des guerres qui fassent le minimum de morts. Et là, je me suis dit que le pire truc qui pourrait arriver, ça serait une guerre entre les deux pays les plus peuplés, qui sont la Chine et l'Inde. Et j'ai fait tout simplement Wikipédia et j'ai regardé « guerre Chine-Inde ». Parce que maintenant, on a cet outil informatique. Mmh. Je me suis aperçu que la Chine et l'Inde sont en guerre actuellement. Parce qu'il y a, il y a eu deux guerres où la Chine envahit l'Inde. Ça a donné le Ladakh et tous les territoires autour de l'Himalaya. Seulement, on s'en fout complètement parce que c'est loin, c'est les Chinois et on n'y a pas fait attention. Et je me suis dit, le jour où ça peut être un peu plus fort.
Ouais.
Entre la Chine et l'Inde, c'est quand même 1,7 milliard d'individus contre 1,5 milliard d'individus. C'est autre chose que l'Europe, l'Amérique et la Russie qui sont des toutes petites entités. Donc j'ai imaginé en effet que ça pouvait arriver.
Bernard Werber, qui est votre invité aujourd'hui pour son roman La Voix de la Terre, publié chez Albin Michel. On va continuer à en parler, bien entendu, mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars.
France O, regardons autrement.
France Bleu.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Sept joueurs, sept visions du futur, le but ultime de chacun s'imposer. Et si un huitième joueur venait tout bouleverser, la Terre n'a pas dit son dernier mot. C'est le propos du livre de Bernard Werber, qui est votre invité aujourd'hui pour ce roman donc palpitant. Un gros bouquin hein, quand même, il y a quoi, vous nous avez fait 580 pages, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment haletant, un bon thriller à lire pendant les vacances. Bernard Werber, vous restez avec nous jusqu'à 13h30 aujourd'hui. Et justement, celui qui n'a pas la voix de la Terre, mais toutes les voix de la Terre. Thierry Garcia, allô les stars. Bernard Werber, votre livre, on le disait, s'appelle La Voix de la Terre et vous faites donc parler la Terre comme un véritable personnage dans ce livre. Mm-hmm. On apprend beaucoup de choses aussi parce que vous placez des extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est vraiment un mélange de recherche scientifique et d'imagination finalement ce livre.
Oui, l'idée c'est qu'une fois qu'on a lu le livre, il faut que mon lecteur il puisse à la limite avoir des histoires à raconter autour de lui. Donc l'encyclopédie c'est des petites anecdotes à sortir le soir. Donc c'est mes recherches à l'époque où j'étais journaliste scientifique, où j'avais retrouvé des petites choses rigolotes que les gens ne connaissent pas. Mm-hmm. Donc je les place au milieu du texte, en même temps ça donne un autre angle, que ce soit l'angle historique, que ce soit l'angle philosophique, l'angle scientifique. Mais je ne veux pas ennuyer, donc je fais des choses courtes sur une dizaine de lignes.
C'est assez intéressant à chaque fois. Parce
ça
que
se lit comme des blagues presque.
Oui presque, hein, mais voilà. En même temps on apprend des trucs, c'est pas mal. Vous êtes mondialement connu Bernard Werber pour la trilogie Les Fourmis, qui fête ses 20 ans là, ça fait déjà 20 ans.
Ah oui, ça ne rajeunit pas. Oui, j'en reviens toujours pas de faire ce métier depuis 20 ans. En tout cas, ça fait 20 ans que tous les matins, j'écris.
C'est parce que vous observiez les fourmis quand vous étiez petit dans le jardin de vos parents que vous avez eu cette idée de vous mettre du point de vue des fourmis pour écrire le livre?
Oui, j'ai commencé à faire de l'élevage et puis je me suis dit, tiens, j'ai enfin les acteurs, je peux observer les acteurs pour écrire les scènes. Donc, je regardais ce que faisaient les fourmis dans l'aquarium et ça me créait les scènes. C'est comme si on pouvait réunir, vous savez, des gens. Voilà, un théâtre.
Théâtre de fourmis.
Et il se passait des choses extraordinaires. Puis je me suis dit, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Pour nous, quelque chose qui a à voir avec notre identité d'espèce et une réflexion avec le terme, c'est perspective. Les fourmis m'ont offert une perspective et la Terre offre une autre perspective. Et dès qu'on prend une perspective, on est moins... le nez dans le guidon, on est moins malheureux.
C'est ça, on prend un peu de distance.
On relativise tout. Ouais. Et c'est ce que j'essaie de proposer dans mes romans, c'est relativiser.
Relativiser, il fait bon, on est bien, c'est bien de vivre en France en ce moment, c'est top. Bernard Werber est votre invité jusqu'à 13h30. Sandrine Alexis, qui est une des imitatrices des marionnettes des Guignols, viendra à partir de 13h, après les infos de 13h. Le livre de Bernard Werber s'appelle La Voix de la Terre. On va écouter Forever Gentleman et on se retrouve après avec Bernard Werber.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Et Bernard Werber, régulier comme un métronome, sort son nouveau livre, mais c'est presque ça. La Voix de la Terre, c'est un roman publié chez Albin Michel. Bernard Werber, depuis le premier, Les Fourmis, vous en publiez un chaque année?
Oui, en fait, j'en écris deux. Il y en a un qui part dans un tiroir, prêt pour l'époque où j'aurais plus d'inspiration.
Et vous en écrivez deux par an.
Mon rythme, ouais. Mais en fait, le petit frère qui n'est pas publié me permet de savoir ce que j'ai pas envie de faire, ou me permet de mieux savoir où je veux aller. Mais ma production...
Et le petit frère qui n'est pas publié, il est sur le même thème que le grand frère qui est publié? Non, c'est complètement deux histoires différentes.
En fait, je me suis inventé une discipline et je crois beaucoup à la discipline et à la rigueur pour arriver à tenir sur le long terme. C'est 8h, midi et demi tous les jours. Donc de 8h à midi et demi tous les jours, je vais au café avec mon petit portable là, qui est juste à côté de moi.
Et vous n'écrivez pas chez vous.
Je mets le casque. Ah non, pas chez moi. J'ai besoin de voir des gens autour de moi pour parler du monde. Je crois que si on reste au même endroit où on dort et où on mange, au bout d'un moment, on tourne en rond. Et en sortant, en voyant les êtres humains bouger, il y a plein d'idées. On regarde un visage, on a un personnage. Enfin, le café, en plus, l'endroit, c'est le centre du village
moderne. Ça fourmille, justement. Voilà. C'est là qu'il y a toutes les fourmis humaines qui passent et qui entrent, qui sortent.
Je fais 8h midi et demi tous les jours. Et après, le soir, je pose une petite idée de nouvelle qui est en fait une inspiration qui pourrait être développée plus tard. Mais je crois que l'imaginaire, C'est un muscle qui s'entretient. Et plus on le sollicite, plus on cherche des idées de plus en plus originales, plus on cherche à aller loin pour surprendre, plus on y arrive. Par contre, si on, au bout d'un moment, on ronronne, on va s'endormir. Donc déjà, quand j'écris, j'essaie de me surprendre et de m'amuser. Et je crois que le plaisir de l'écrivain est indispensable pour qu'il y ait le plaisir
du lecteur. Vous sortez donc un livre par an, chaque fois au mois d'octobre. Hein. C'est par superstition. Il y a une date précise qui représente quelque chose ou pas?
Mon anniversaire étant le 18, en général, j'ai le livre le 18. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est
votre cadeau d'anniversaire, en fait.
Voilà. Ouais. Puis c'est une date que normalement je ne devrais pas oublier. Donc je sais.
Vous savez que vous devez livrer, que ça
voilà,
doit être sorti.
En général,
sorti
je
le livre
en juin
octobre.
Pour que ça soit prêt.
Pour que ça sorte le 18 octobre. Ce qui veut dire que là, vous êtes déjà en train d'écrire l'histoire suivante.
Ah oui. Alors ça fait d'ailleurs étrange de faire la promotion du livre, en fait, pour moi, de l'année dernière. Donc il faut que je me rappelle mes deux héros, David Hypatie, de La Voix de la Terre. Il faut que je me replonge dans leur histoire d'amour, leur communication avec la planète et tout. Et il faut que par moment, il faudrait pas que je relise le livre, parce que je suis tellement dans le nouveau. Mais je crois que pour les artistes, pour les acteurs, ça va être pareil. Souvent, ils font la promo du film.
D'un film, alors qu'ils sont déjà sur un tournage.
Sur un tournage, voilà. L'avantage, c'est que quand même, ce livre m'a tellement pris, et m'a tellement intéressé. C'est-à-dire, vous savez, quand on écrit un livre, on découvre soi-même des choses. Par exemple, je ne savais pas cette histoire sur les pyramides. Pour moi, les pyramides, la pyramide de Khéops, c'était construit par le pharaon Khéops comme tombeau. Et tout d'un coup, je rencontre des archéologues qui me racontent, mais non. Ça existait 2000 ans avant Khéops. Khéops, le seul avantage, c'est qu'il a trouvé le passage pour rentrer à l'intérieur. Et donc, il rentre dans une ruine qui était là depuis 2000 ans. Et il dit, tiens, finalement, vu qu'il y a trois loges, je vais en faire une qui va être mon tombeau. Mais on ne sait pas à quoi servent les pyramides, on ne sait pas qui les a construits. Ça a été fait il y a 5000 ans, donc, alors que Khéops, c'était il y a 2500 ans. Et ça a été fait d'une manière tellement intelligente qu'on ne serait incapable de le refaire maintenant. Et toutes les autres pyramides en dehors de Khéops ne sont que des copies ratées de Khéops. Donc, il y a vraiment une magie sur ce monument, cette entité. Et j'ai imaginé que c'était en fait une sorte de cabine téléphonique pour parler à la planète. Et donc mes deux héros, David et Hypatie, vont rentrer dedans et ils vont commencer à parler à la planète qui, elle, va
répondre.
Oui, et qui est très contente en fait d'entretenir cette relation, parce que depuis le temps qu'elle voulait à nouveau parler aux humains.
Le mystère des pyramides, c'est toujours très fascinant, hein, c'est aussi...
Je crois que surtout, on en parle très très mal, parce qu'on croit qu'il y avait une religion égyptienne qui était tournée vers l'incarnation, qui a construit les pyramides, et c'est pas du tout ça. Il y a eu juste un bonhomme qui a commencé à utiliser ces monuments pour lui-même, pour sa gueule, mais il ne savait même pas lui-même à quoi ça servait. Et c'est bon de rappeler qu'il y a des choses sur cette terre dont on ne connaît pas. Il y a l'île de Pâques aussi, que j'évoque beaucoup dans le livre. L'île de Pâques et les pyramides sont deux énormes mystères. Et la solution que j'ai trouvée, moi, c'est que c'est un moyen de communiquer avec maman, Gaïa.
Et... la terre qui nous nourrit, qui nous a tous donné la vie.
Oui, c'est toujours étonnant de voir ces gens qui se tuent pour un dieu imaginaire, alors que nous sommes dans une nature d'une merveille, d'une complexité extraordinaire.
Et qui déjà est quelque chose de divin et de magique. Bernard Berber, le livre s'appelle La Voix de la Terre. Dans un instant, on va aller voir un petit objet. On pourrait se demander à quoi ça sert. C'est un carré ou un rectangle maintenant qui trône.
C'est pas la Terre qui nous parle à l'intérieur, c'est sûr, en tout cas.
Voilà, qui trône dans les chambres, les salons et les cuisines.
Qui fait de la lumière.
Et ça s'appelle La Télé avec Patrice Gascoigne.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
La Voix de la Terre, c'est le titre du roman de Bernard Werber qui est votre invité aujourd'hui. Sandrine Alexis nous rejoint pour parler de plusieurs voix, celle qu'elle imite depuis plus de 20 ans dans les guignols de l'info sur Canal+. Bonjour Sandrine Alexis.
Bonjour Daniela, bonjour tout le monde.
Avec Alexia Brun, c'est le quiz du mercredi pour vous Bernard Werber. Bonjour Alexia.
Bonjour Daniela, bonjour à tous. Alors Bernard Werber, vous avez écrit le livre Les Fourmis, un super succès. Donc je vous ai fait un petit quiz comme une fourmi.
Comme une fourmi, on va voir si vous êtes vraiment comme une fourmi Bernard Werber.
Faut que je réponde,
hein. Et le Hugo. On va parler du nouvel album d'Aretha Franklin.
Un album très attendu, vous imaginez bien, et en plus qui est exceptionnel, à la hauteur de la diva de la soul, tout simplement.
France Bleu Midi, ensemble, la suite, c'est jusqu'à 13h30. Sandrine Alexis, on a entendu pendant les infos, Ségolène Royal, c'est vous qui faites sa voix, non ?
Mais bien sûr, c'est moi qui fais sa voix, bien sûr. Je faisais également la voix de la Pintade, Valérie Trier-Weller, vous savez, celle qui a les gros mollets. Je suis toutes les femmes de président de la République.
Un DVD sort, entièrement fait en France avec l'aval d'Arnaud Montebourg, dit la pub. 50% des recettes seront reversées à Big Malion, toujours selon la pub. Dans ce DVD, aucun membre de l'UMP n'a été honnête, c'est toujours la pub. C'est le nouveau DVD des Guignols de l'Info. Ça nous annonce la couleur clairement, hein, Sandrine Alexis.
Ah bah oui, bah les Guignols, ils ont leur patte, leur style. Voilà, on commence à s'y faire maintenant. On n'est pas choqués par les Guignols. Ils nous surprennent toujours.
Alors vous devez porter leur texte, hein, avec votre voix, vos imitations. Est-ce que parfois vous vous dites, oh non, quand même, c'est pas sympa ce qu'ils disent, ce qu'ils me font dire dans la bouche de l'une ou l'autre, Ségolène Royal ou je sais plus.
J'ai plus tendance à refouler mes fous rires pendant les directs parce que ça me fait marrer et puis que je suis surtout consciente que dans l'humour, il y a différents degrés. Donc voilà, il faut savoir s'adapter et savoir rire de tous les différents degrés d'humour.
Et vous partagez leurs opinions parce que finalement, c'est quand même une expression très politisée, les Guignols.
Moi, oui, c'est politisé, évidemment, mais moi, c'est la dérision et c'est l'humour avant tout qui me fait avancer avec les Guignols. Et pas particulièrement, j'y mets pas un point d'intérêt au niveau politique.
De temps en temps, ils vous demandent de nouvelles voix. Ça vient d'eux, j'imagine. Ou c'est vous qui vous dites, tiens, je pourrais faire cette voix, je commence à la travailler.
Ben, ça dépend. Des fois, c'est eux qui me demandent, comme ils m'ont demandé de faire Natacha Polony, qui est sortie récemment. Là, c'est une demande des Guignols. Puis des fois, je fais des propositions aussi.
Comment vous avez fait pour la travailler, Natacha Polony? Ils vous le disent combien de temps à l'avance? C'est pas quand même demain, tu nous fais Natacha Polony, non?
Non. Ils m'ont demandé ça. Avant l'été. Donc généralement, je travaille mes voix pendant l'été.
Comme ça que j'ai travaillé Marine Le Pen, n'est-ce pas? À la plage avec des écouteurs sur les oreilles.
Ouais, y en a qui écoutent
ça devait
de la
être drôle pour les gens qui passaient en maillot de bain
de
vous voir faire Marine Le Pen.
Tous les étés, j'ai une commande pour la rentrée et à chaque fois, je me travaille mes voix à la plage et des fois, c'est un peu pénible. Mais Natacha Polony, c'est un personnage qui est très explicative et qui monte et qui descend et qui est vraiment, c'est le côté professeur. Alors on l'a fait qu'une fois, donc là je suis pas encore bien chaude, j'ai toujours besoin de me chauffer un peu avant de faire Polony, c'est une voix récente.
Sandrine Alexis, vous produisez aussi sur scène, l'exercice est plus compliqué quand on est sur scène ou quand on est caché derrière une marionnette?
Sur scène, si on se trompe, on peut rectifier le tir en se marrant avec le public. Et du coup, le public assiste à un truc qui n'est pas prévu et ça les fait marrer.
Avec les marionnettes des Guignols, c'est plus difficile, Sandrine?
Oui, parce que ça nous est arrivé rarement, heureusement, d'avoir les pages qui se mélangent. Et là, ça met en suspens pendant quelques secondes et ça peut être vraiment, vraiment déstabilisant. Donc, je dirais que c'est plus gênant d'avoir des soucis pendant un JT que sur scène.
Bernard Werber, vous regardez les Guignols de l'Info?
Oui. Oh oui, non, je suis régulièrement. Je trouve que en effet, c'est remarquable. Et puis, ce qu'elle raconte, d'arriver à se forger la voix exactement de la personne, ça veut dire qu'elle doit aussi prendre le mental. Au moment où vous parlez comme elle, vous devez aussi penser comme elle pour pouvoir être juste dans les émotions.
Oui, d'ailleurs, quand je suis heureuse de vous rencontrer, vous savez que mon mari aime beaucoup votre livre sur les fourmis, parce que lui-même est tout petit, vous savez, alors il aime beaucoup, bien sûr, les petits insectes. Vraiment, je suis ravie de vous rencontrer.
Merci.
Peut-être que d'ailleurs je
Carla
ferai
Bruni.
Une chanson qui pourrait s'appeler La fourmi après avoir fait le pingouin.
J'adore. Pourquoi parce pas. Qu'elle fait vraiment les expressions aussi, hein, Sandrine Alexis, là, de Carla Bruni, on la voit physiquement.
Il y a une idée que j'ai présentée dans le livre, qui m'était racontée par un prof de chant, et elle me disait, il est possible que nous ayons les voix de tous nos ancêtres, de tous les cris de douleur et de joie, c'est-à-dire que nos voix actuelles sont la résultante de toutes les voix de tous nos ancêtres. Donc ça veut dire qu'elle arrive à chercher dans tous ses ancêtres les voix de tous les personnages.
Ah bah alors, mais dis donc, pour Morano, j'ai dû en avoir une qui était sacrément vulgaire, bordel de merde.
Voilà. Sandrine Alexis, ce DVD des Guignols s'ouvre sur Antoine de Caunes, qualifié de revenant. Il est très critiqué en ce moment. Hein. Il y a eu d'abord Philippe Gildas, puis ensuite Pierre Lescure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un de Caunes bashing?
Ah, moi, je ne sais écouter... Moi je trouve qu'il se débrouille bien. Puis voilà, de toute façon, il le disait à l'époque de Gildas, qu'il voulait être le maître de nulle part ailleurs. Voilà. Et puis aujourd'hui, il est sur l'émission et puis il amène son style. Et voilà, moi je porte pas de jugement. Moi j'aimais beaucoup aussi Michel Denisot avec son ton très calme.
On écoute un petit extrait du DVD, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
C'est Stromae, puisque la pub dit qu'il y a 10 chansons joyeuses sur la mort par Stromae dans le DVD. Écoutez.
Dites-moi où il y en a, parce que moi je n'en trouve pas. Saint-Pin dit qu'il ne reste plus rien, il n'y a même plus un seul CDD. T'as passé tes diplômes en vain, tu peux jeter tous tes CV. Ne te fatigue pas à chercher, vous êtes 6 millions à chômer. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi? Dites-moi où qu'il est l'emploi. Même des boulots tout pourris, je sais qu'il n'y en a pas. Ah, sacré emploi! Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat. Tout est en plein outé, tout est en plein outé, tout est en plein outé.
Stromae, emploi outé, donc chanson sur la période actuelle que nous traversons et les chansons sur la mort, les belles chansons. Ce sera tout à l'heure dans France Bleu Midi ensemble, Sandrine Alexis. On retrouve donc vos imitations dans le DVD Best of de l'Agné des Guignols.
Non, l'Agné.
Il faut le dire avec l'accent de l'imitateur de François Hollande. Hein. Dans un instant, c'est le quiz fourmi.
France Bleu Matin.
Météo France nous dit
France Massard.
Pluvieux et même parfois un coup de tonnerre.
Info, le sport et la qualification pour les quarts de finale.
Horoscope, poisson, c'est joli, c'est beau, l'amour a le dernier mot.
Allez, allez, on se bouge.
Et de la bonne humeur pour commencer la journée.
France Bleu.
Souriez, vous vous réveillez.
France Bleu Matin, dès demain, 5h.
France Bleu, France Bleu,
France Bleu.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
L'imitatrice Sandrine Alexis et le romancier Bernard Werber sont avec nous aujourd'hui dans France Bleu Midi ensemble et c'est le moment de retrouver Alexia Brun pour le quiz.
Bernard Werber, vous êtes l'auteur de, donc, des fourmis et moi, après avoir visionné 5 heures de documentaire animalier sur Arte sur la vie des fourmis, passionnant, je vous ai préparé un petit quiz comme une fourmi. Alors si. Est-ce que comme une fourmi, vous vous laissez marcher dessus Bernard Werber?
Je me dégage. Mais ouais, en général, non, je ne me laisse pas marcher dessus. Dès qu'il y a un problème, je m'en vais.
C'est une bonne technique.
Un homme, quoi.
Non, c'est élaboré. Il disait qu'il y a trois choix. C'est combattre, inhiber ou fuir. Et il concluait que la meilleure technique, c'est fuir. Parce que quand on combat, ça finit toujours mal. Quand on inhibe, on s'abîme le corps. Et puis la fuite, finalement, ça peut donner la création. Et ça peut donner la création artistique, notamment.
Il n'y a pas de problème qu'une absence de solutions ne finissent par régler. Voilà, hein, c'est ça.
Est-ce que comme une fourmi, vous ne mettriez pas une patte au Groenland ou en Antarctique?
Alors, les fourmis sont au Groenland et en Antarctique. Ah. Et dans La Voix de la Terre, je raconte
en plus...
Je me suis
endormie avant la fin du documentaire, je suis désolée.
Elles sont dans les déserts les plus chauds, c'est-à-dire que c'est l'espèce qui arrive à résister le plus au froid et au chaud de toutes les espèces animales.
Bon, j'aurais appris.
Mais cela dit, non, je mettrai avec plaisir mes pieds dans le nord et le sud pour voir comment est ma planète que j'adore. C'est-à-dire, je trouve fascinant les décors de
ces grandes étendues de glace.
Ouais, non, mais je suis émerveillé de voir la diversité de formes, de flore et de vie qu'il y a sur la Terre. Et je comprends pas qu'on soit pas tous dans cet émerveillement permanent. Ça a l'air bizarre comme ça, ça a l'air un peu plan-plan. Mais il pourrait y avoir qu'un seul insecte, un seul mammifère, une seule plante. Non, il y en a plein de papillons, plein de trucs. Et on dirait que ça a été fait pour nous amuser ou pour nous offrir un spectacle extraordinaire. Donc je suis fan de ma planète.
Alors si comme une fourmi, Bernard Werber, vous n'aviez que 3 semaines à vivre, qu'est-ce que vous feriez?
Alors d'abord, je terminerai cette émission radio dans les meilleures conditions. Ensuite, je ferai très très vite un nouveau roman qui s'appellerait « Mes dernières volontés » ou « Mes derniers souvenirs ». Je crois que je me mettrai à écrire parce que c'est le truc qui, c'est l'activité dans laquelle je me sens le mieux et qui m'amuse le plus.
Une fourmi, ça vit 3 semaines.
Alors ça dépend des espèces. En fait, il y a 12 000 espèces. Je disais tout à l'heure que pourquoi c'est autant diversifié. La reine vit 3 ans. Certaines ouvrières des petites espèces, en effet, peuvent vivre même une journée. Mais nous, je pense que dans le documentaire, ils ont choisi une espèce spécifique. Ça me semble, par exemple, les fourmis des bois, oui, peuvent vivre
3 semaines.
Un mois.
Il y en a une qui n'a pas duré longtemps, c'est la Trier Veller.
Vous lui en voulez à celle-là, Sandrine Alexis.
Est-ce que comme une fourmi, Bernard Werber, vous n'aimez pas le citron ni l'amande, donc du coup, vous ne pouvez pas boire de mojito?
Je bois des mojitos, mais uniquement en vacances, sinon je ne peux pas bosser. Ça aussi, c'est faux. En fait, vous mettez n'importe quel parfum, la fourmi ne va pas y aller parce que ça lui trouble la communication olfactive. C'est comme si vous mettez un endroit très bruyant, l'être humain aura tendance à aller vers les endroits silencieux. Mais c'est plus le fait que ça brouille la communication qui fait que les fourmis ne vont pas là où il y a du citron ou des amandes.
Bernard Werber, on vous appelle si on a des problèmes de fourmis chez nous pour les éloigner.
Non, mais par rapport aux fourmis, il faut se rappeler quand même qu'on a des fourmis dans sa cuisine.
Oui, on a les fourmis qui crondent, ouais.
Bon, elle est faite, celle-là.
C'est fait.
Mais j'avais pas
osé. Ça veut dire qu'on considère que cette planète nous appartient à nous et pas aux fourmis. Or, elles étaient là il y a 120 millions d'années. Nous sommes là que depuis 7 millions d'années. Donc, elles ont autant de raisons de manger nos pommes et tous les miettes chez nous que nous en avons aussi. Donc, en fait, on devrait partager.
Bernard Vermeer, est-ce que comme les fourmis ouvrières, c'est vous qui faites les courses chez vous?
C'est moi qui fais les courses en partie, la moitié du temps. Et puis, j'aime bien faire les courses au marché notamment. Et sinon, je ne sais pas faire la cuisine par contre. Mais je crois que les fourmis ne font pas la cuisine non plus, elles mangent direct.
Bon, est-ce que comme celle de La Fontaine, la fourmi n'est pas prêteuse chez vous? Vous n'êtes pas prêteur, Bernard Vermeer?
Je suis prêteur malgré moi parce que j'oublie mes affaires partout. Donc finalement, je laisse des trucs, je laisse des traces partout. Je n'arrive pas à réunir mes affaires.
J'ai exactement le même défaut.
Ah, Alex, Sandrine Alexis. Merci Alexia Brun. C'était le quiz Comme une fourmi de Bernard Vermeer.
France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso.
Sandrine Alexis et Bernard Vermeer sont vos invités aujourd'hui. Bernard Vermeer sort un livre, un roman qui s'appelle La Voix de la Terre. Est-ce qu'il y a une musique de la Terre?
Oui, justement, je l'ai mis sur mon Facebook parce que j'ai découvert ça, c'est assez extraordinaire. La NASA a enregistré le chant de la Terre et ça ressemble beaucoup au chant des baleines. Et il y a une émotion qui sort, c'est le champ magnétique parce que dans l'espace on n'entend rien, mais à l'endroit où c'est placé, le type de micro prend le magnétisme de la Terre. Ah ouais, on l'entend, non? Dans mon écouteur, j'ai cru entendre un bruit bizarre, je me disais c'était ça. On dirait vraiment un chant de baleine et c'est étonnant que... C'est peut-être que les baleines communiquent avec la Terre.
Alors, c'est pas un chant de baleine dont on va parler aujourd'hui, Elodie Sugo.
En tout cas, moi, je communique aussi avec la Terre, mais si vous visez particulièrement, je ne sais pas. Je vais vous parler du nouvel album d'Aretha Franklin, qui est évidemment un album très attendu par toutes les générations confondues. Elle a décidé de s'attaquer à des chansons qu'elle aime, donc il y a toutes sortes de chansons. Il y a des chansons qui sont âgées, des chansons qui sont un peu plus jeune. Mais en tout cas, ce sont des chansons qui nécessitent une technique vocale hors norme. Donc là, je vais me tourner vers Sandrine Alexis. Je vais vous laisser écouter. Je vais vous laisser aussi vous torturer un peu. Il n'y a pas de raison. Je vais vous faire écouter une version qu'on découvre sur cet album. Une version interprétée par Aretha Franklin. Et comme elle a cette capacité à s'approprier les chansons et à nous faire oublier les versions originales, je vous souhaite bon courage. Voici la version d'Aretha Franklin. We could have had it. Là, on se dit, quoi, c'est Aretha Franklin qui chantait ça en premier? Non, non, je vous rassure.
C'est Adèle,
hein.
Elle reprend
une chanson. Alors, c'est une chanson de qui?
Adèle.
Pas mal. Combien de temps pour faire une telle commande, Sandrine Alexis? Des chansons comme Aretha Franklin.
Je préfère la version d'Aretha Franklin.
Elle est incroyable.
Ah ouais, c'est...
Et pourtant, quand on écoutait Adèle, on disait que c'était impossible de
reprendre.
On était
au summum, voilà. Non, bah là, non.
Et
voilà.
En fait, non, on a
grillé
encore...
Adèle.
Elle reprend d'autres chansons. Elle reprend par exemple Nothing Compares to You, qui est une chanson qui a été écrite par Prince avec un groupe qui s'appelle The Family. Quand il a sorti cette chanson-là, elle n'a absolument pas fonctionné. Et puis, 5 ans après, il y a une chanteuse incroyable qui la reprend. Ça devient un tube mondial. Et ce tube, c'est celui-ci. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares to you, version cinéa de Connor. Voici donc maintenant celle d'Aretha Franklin. Je vous ai dit que la chanson était sortie en 1984. Voici cette nouvelle version, 30 ans après. I can eat my dinner in a fancy restaurant. Pas Aretha Franklin, qui est capable de faire ça? Qui est capable d'oser, d'aller retravailler une chanson, de la revisiter, d'offrir autre chose? Vous en pensez quoi, Bernard Vermeer?
Écoutez, je vais vous surprendre, mais j'aime pas du tout. Je préfère la version d'Adèle et je préfère la version de Sinéad O'Connor. Et puis j'ai un autre problème, c'est que tout le matin, donc je travaille au café, et au café, ils mettent tous Aretha Franklin.
Ah oui?
De 8h à midi. Et chaque fois, je leur demande gentiment de baisser.
C'est un problème
pour
de
moi,
café.
Pour moi, Aretha Franklin, c'est à 18h.
Mais si tu veux, je peux te chanter le lapin avec la voix de Chantal Goya. Petit lapin dans la nature.
Mais pas ces aigus, pas ces trucs qui pousseraient.
C'est pas
ces trompettes.
Il fait du bien pourtant, il est reposant, donc idéal pour les dîners entre amis. Séduisant,
c'est
donc
happy hour.
Très bon pour les dîners aux chandelles. Et on se rend pas compte qu'elle a 72 ans, quoi. Elle est toujours là, elle est toujours présente et elle nous fait du bien. Trouver la seule personne qui n'aime pas cet album.
Super. Hein.
Donc je vais l'offrir à Sandrine Alexis.
Ah oui, non, alors, merci.
Allez-y.
C'est pour moi.
Vous, Bernard Werber, vous n'aurez pas l'album. Merci.
Mais j'aimerais bien qu'un jour elle reprenne mon Titanic. Là, je serais tellement flattée. Ça me ferait tellement plaisir.
Tellement. La Voix de la Terre, c'est le roman de Bernard Werber que Élodie Suigo n'a pas du tout aimé, mais vous pouvez lire.
C'est pas vrai.
Il est excellent ce livre. C'est chez Albin Michel et on attend avec impatience le prochain. Donc c'est en octobre 2015. Merci Sandrine Alexis.
Merci,
on vous
Daniela.
Retrouve dans le journal des Guignols mais également sur le DVD La Niée des Guignols qui est sorti hier et demain nous recevrons Francis Huster et sur scène Sandrine Alexis, elle passera près de chez vous sûrement. Regardez
bien
sur
sûr,
le
juste
site
après
internet.
La boulangerie à droite, j'y serai.
Demain nous recevrons donc Francis Huster et Dove Attia. D'ici là, soyez heureux avec France Bleu.